Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing de Camille Gabi, la cofondatrice de la start-up engagée Imperfect Paris. L'occasion pour nous de faire un point sur la mode vintage, mais pas que. Bonjour Camille.
Salut Valérie.
Alors d'abord, qui es-tu Camille ?
Alors moi je suis une femme de 35 ans. Je suis maman de deux petits garçons, un qui a 3 ans et un qui vient tout juste d'avoir 5 mois. Je suis parisienne, enfin j'ai grandi dans le Val d'Oise. Je suis fille unique.
Nous avons deux points communs, figure-toi.
Ah ouais, toi aussi, Val d'Oise ? Mmh. Ah ben voilà, ben tu vois.
Et fille unique.
Et fille unique aussi, ben voilà. Et écoute...
Tu as fait des études, hein ?
Oui, je suis diplômée d'HEC. Mmh. Je suis diplômée d'HEC et j'ai terminé en 2007. Après mes études, je me suis spécialisée en marketing. Je suis partie bosser chez L'Oréal pendant 5 ans quand même. Mmh. J'ai travaillé sur le lancement de marques, par exemple Urban Decay ou Yves Saint Laurent en France et un peu à l'étranger aussi, à Londres notamment, enfin en Angleterre. Et il y a un moment, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ce que je faisais. Et du coup, je me suis un peu remise en question et c'est comme ça qu'un peu est née Imperfaite.
Alors, tu as créé Imperfaite Paris, tu as co-créé, parce qu'il faut saluer ta comparse.
Évidemment, Ariane.
Ariane, vous l'avez co-créé donc comme je viens de le dire, en 2017. Comment vous avez eu l'idée de créer cette plateforme ? Alors, ce n'est pas une plateforme de seconde main, on va en reparler, on va expliquer. Ouais. Ce sont des vêtements vintage, mais comment as-tu eu l'idée de créer Imperfaite Paris ? Et d'ailleurs, pourquoi ce nom ? J'adore cette marque, Imperfaite.
Sympa. Écoute, alors, Ariane et moi, c'est aussi une histoire de vintage, figure-toi. Alors, notre amitié est vintage, parce que ça va bientôt faire 20 ans, tu vois, qu'on se connaît. Ouais. Mais tu vois comme quoi tout se bonifie avec le temps.
C'est joliment dit.
Bah ouais, écoute, on est vintage, elle et moi, et on est très heureuse de l'être, on est très fiers de ça. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école, figure-toi. On a été tout de suite très amis et plein de choses nous rapprochaient. Les études, la mode, enfin tu vois, on était des adolescentes en gros à l'époque et on a grandi ensemble. Et elle était fan de mode. Et elle me traînait dans les boutiques vintage. Moi, comme toutes les personnes de mon âge à l'époque, j'avais pas de style, je me cherchais, je m'habillais chez Zara. Enfin, tu vois, je suivais vraiment ce que me disaient les pubs. Et elle, pas du tout. Elle était déjà très libre, tu vois, dans sa tête. Elle allait chiner des vêtements. Et on a commencé comme ça. Enfin, c'était vraiment un point commun qu'on avait. Enfin, elle me traînait dans les boutiques vintage et je trouvais ça vraiment cool. Et puis, on a fait nos vies. Donc, moi, je te dis, je suis partie chez L'Oréal. Elle est partie chez Lanvin. Elle a bossé dans des maisons de mode, chez Chanel, chez Saint Laurent.
Un lien avec la mode, quand même.
Elle, toujours un lien avec la mode et moi, avec la beauté de manière, tu vois, détournée avec L'Oréal et la cosmétique. Et au final, Imperfaite, c'est venu quand je me suis posé des questions un peu sur le sens de ce que je faisais. En fait, L'Oréal, c'est une boîte magnifique. Franchement, je cracherai jamais sur L'Oréal.
C'est une très belle école, déjà.
Très belle école. Il y a des gens qui sont super bien câblés, qui sont très, très brillants. Il y a eu des super beaux projets. C'est une boîte qui nous envoie à l'international. Enfin, vraiment, il y a plein d'opportunités. Il s'avère juste que j'étais plus en phase à un moment avec l'idée marketing de la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Tous les ans, on lançait un nouveau mascara. Tous les ans, on allait voir nos retailers en disant ça, c'est super mascara. Il faut absolument l'acheter en grande quantité pour vos clients. Et puis l'année d'après, on dit non, mais en fait, le mascara de l'année dernière, tu l'oublies. C'est celui-là. Et il y avait vraiment cette chasse à toujours plus. Et à un moment, je ne comprenais plus. On avait quand même des questions, tu vois, sur l'écologie. Enfin, ça, il y avait une question de sens. Et je suis allée voir Ariane un jour en lui disant, en fait, on va monter un truc dans le vintage. toute la connaissance que toi t'as, toute la patience que t'as, tout l'œil, tu vois, que t'as, il faut qu'on arrive à le digitaliser et qu'on réponde en fait à une problématique qui était la mienne. En fait, c'était très personnel, imparfaite quand on l'a lancé. Moi, j'adorais les boutiques, mais j'aime pas chercher. Ça m'ennuie en fait. Enfin, c'est pas un truc dans lequel j'excelle. Ça me fait perdre du temps. Je suis pas fan. Ariane, elle adore, tu vois, la chasse au trésor.
Faut savoir le faire.
Faut savoir le faire. Faut... En vrai, beaucoup de personnes viennent nous voir en disant, c'est quoi tes tips pour chiner? En fait, il n'y a pas de tips. Le seul tip, c'est qu'il faut y passer du temps. Il faut aller dans les boutiques, il faut trouver les boutiques qui vous plaisent et il faut y aller régulièrement parce que bah, c'est une chasse au trésor. Vous y allez une fois, vous trouvez plein de trucs, vous y retournez une semaine après, il n'y a plus rien parce que bah, c'est la beauté de la chose. Il y a des gens en vintage qui adorent la chasse, qui adorent la chasse au trésor, qui adorent trouver la pièce après des heures de recherche. Moi, ça m'ennuie. Ce n'est pas ce qui me plaît. Donc, en fait, c'est pour ça que j'y allais toujours avec Ariane parce qu'elle, elle adore ça.
Elle faisait le boulot pour toi.
Elle faisait le boulot pour moi. Et je me suis dit, bah, il faut qu'on arrive à faire ce boulot-là de manière large pour répondre à des nanas comme moi qui ont envie de s'habiller vintage mais qui ne savent pas par où prendre le truc et qui n'ont pas la patience de chercher, quoi.
Et pourquoi imparfaite?
Et alors, imparfaite, c'est très drôle l'histoire de du nom. Quand on a commencé, moi, c'est moi qui voulais quelque chose un peu de subversif parce que donc, je venais de chez L'Oréal et on n'arrêtait pas de parler de la femme Saint-Laurent. Oh, faut être la femme Saint-Laurent, la femme Saint-Laurent, elle est comme ça, comme ça.
La femme
ça.
Parfaite, quoi.
C'était elle, tu vois, en fait. Et pareil, la femme Lanvin, la femme machin. Enfin, tu vois, on nous parlait toujours de « elle est irrévérencieuse, elle est machin », les trucs, plein d'adjectifs. Tu sais, quand
elle est parisienne.
Ouais, tu vois. Et en fait, ça me saoulait. J'en avais marre, tu vois, de cette idée qu'il fallait rentrer dans une case. Donc, on est rentré, enfin, on a commencé à brainstormer sur des noms. Et puis, il y a Imparfaite qui est tombé à un moment et on s'est dit, ah, c'est intéressant. Ariane, elle, à l'origine, elle détestait. Elle n'est pas du tout imparfaite. Et quand elle en parlait de ce nom-là, tu vois, autour d'elle, dans ses. Tu vois, avec ses copines de chez Lanvin ou de chez machin, tout le monde lui disait « oulala, c'est hyper négatif, t'as pas envie d'être imparfait quand t'achètes une fringue, au contraire, t'as envie d'avoir une vision sublimée de toi-même, etc. » Puis je sais pas, moi j'avais cette conviction, donc je dis « c'est quoi, on n'a pas le temps, de toute façon, faut lancer, faut qu'on voit, faut qu'on se confronte au marché. » Donc on a lancé avec Imparfaite. Tu vois, c'était vraiment ce côté... donc c'est un
peu aller à contre-courant.
Un peu aller à contre-courant, c'était ce modèle de femme, on voulait vraiment être... c'était une injonction à être libre, tu vois. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis après, on s'est dit, c'est marrant parce que imparfait, c'est aussi le vêtement qu'on va vendre parce que tu sors pas de la boîte, tu vois. Il y a un côté embrasser ses imperfections parce que c'est ces petites choses qui font qu'en fait, t'as de l'attachement émotionnel, tu vois. Je sais pas ce que t'as, enfin, je sais pas si t'as la même logique, mais je sais que moi, mon mec, il m'adore pour toutes mes imperfections, soi-disant, tu vois.
Oui.
Il m'aime
c'est l'amour.
Parce que je suis chiante, parce que tu vois, c'est ça l'amour, en fait. Enfin, tous les trucs qui l'agacent, en fait, le jour où je pars, bah, c'est ça qui lui manque, tu vois. Donc, on avait un peu cette idée de dire, il faut célébrer nos imperfections parce que c'est ce qui nous rend unique. Et le vêtement vintage, c'est pareil. Et on a post-rationalisé la chose en disant, en plus, on conjugue la mode à l'imparfait, le rapport au temps, tu vois,
exactement,
la transmission et tout. Et donc, on a commencé à écrire l'histoire d'Imparfaite. Et puis, on s'est dit, bon, on a eu tellement de retours négatifs. Hein, quand même, on va peut-être essayer de réfléchir à un autre nom. Donc, on a parlé à nos clientes. On a fait un focus group pour essayer de trouver un autre nom. Et après 2 heures de brainstorming, toutes les nanas nous ont dit, non, mais attends, Imparfaite, c'est tellement fort. Arrêtez, c'est exactement ce qu'il vous faut.
C'est de la prise de tête pour rien.
C'est de la prise de tête pour rien. Et maintenant, c'est marrant parce que Imparfaite, c'est quelque chose de très fort. Et tout le monde adore le nom. On nous le ressort tous les jours, alors que vraiment au départ, c'était des red flags. Tout notre entourage était « attention, c'est hyper négatif, faites pas ça
ouais. ». Preuve qu'il faut oser.
Ouais, c'est une bonne leçon de « faut se faire confiance, faut faire confiance
alors,
à ses tripes ».
Comment fonctionne Imparfaite? C'est-à-dire que vous travaillez avec des vendeurs de vintage, c'est ça? Des friperies?
C'est ça. En gros, la logique, le pourquoi d'Imparfaite, c'est d'encourager les femmes à acheter du vintage pour diminuer le volume de production de vêtements. C'est de dire, aujourd'hui, il y a suffisamment de vêtements sur Terre, la mode est un éternel recommencement, tout a déjà été fait en vintage. Il y a plein de personnes qui nous disent, ah, oh, mais moi, mon look, c'est pas vintage. Mais tous les looks sont vintage, littéralement.
C'est quoi un look vintage?
Il n'y a pas de look vintage, ça n'existe pas, tout est vintage. Tu peux être super classique, tu peux être super extravagant, tu peux être bohème, tu peux être... En fait, tu peux avoir tous les métiers du monde. Être avocat d'affaires comme être graphiste, enfin, tu peux te trouver une alternative en gros vintage. La seule complexité, c'est de trouver les pièces, c'est d'avoir le temps. Et en gros, on a designé cette plateforme en disant on veut qu'il y ait la plus belle sélection On fait déjà, tu vois, tout le travail d'amont où on sélectionne les pièces sur la qualité, sur la propreté, etc. et sur le design. Et on les met à disposition sur cette plateforme. Donc, toute l'idée, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle l'offre est extensive et t'as toutes les pièces vintage qui sont de qualité. Donc, la manière dont on fonctionne, c'est on fait des partenariats avec des friperies et des dépôts-ventes. Nos vendeurs sont tous des professionnels du vintage parce que c'est eux qui ont accès, en gros, au sourcing de pièces vintage. On définit avec eux des cahiers de tendance. Qui sont sur la base de défilés, de ce qui se passe, tu vois, autour de nous. Donc, il y a un côté assez qualitatif, mais aussi quantitatif. On regarde la data de ce qui se vend sur le site et on restitue ça à nos vendeurs en disant, en ce moment, en gros, on voit que tel type de blouse se vend super bien. Donc, si vous voulez que ça se vende bien, allez chiner ces pièces-là et mettez en priorité ces pièces-là en ligne. Donc, c'est vraiment une plateforme B2B. On met en relation des vendeurs qui sont experts avec des acheteurs qui, eux, pour le coup, peuvent être complètement novices dans l'art de chiner.
Alors, est-ce que tu peux quand même nous repréciser la différence entre le vintage et une plateforme de seconde main ?
Alors, le vintage est de la seconde main. La seconde main n'est pas vintage. La seconde main, de manière
important de le dire.
C'est super important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de confusion. Tout est vintage. Parce que vintage, c'est cool. Enfin, tu vois, il y a un mot plus... C'est plus sympa que seconde main.
À partir de quand ? Ça, c'est une petite question supplémentaire. À partir de... Combien d'années un vêtement est considéré comme vintage ?
Ce qui est communément admis, c'est 20 ans.
20 ans. Donc, effectivement, une plateforme de seconde main où tu revends du Zara, du Shine et du H&M. C'est pas vintage.
Non. Il y a des marques qui disent aujourd'hui, tu sais, il y a plein de marques qui ouvrent leur plateforme de seconde main, ce qui est top pour permettre à leurs clientes de revendre des pièces. Il y en a plein qui appellent ça la marque vintage, sauf que c'est une marque qui est née il y a 10 ans, en fait. Donc, les pièces sont techniquement pas vintage, elles sont de seconde main. Et c'est assez important de faire cette différence parce que vintage, pour nous, c'est un peu la sélection naturelle des vêtements. Si un vêtement a duré 20 ans, ça veut dire qu'il est suffisamment qualitatif pour durer dans le temps et ça veut dire qu'il a suffisamment de valeur parce que les propriétaires précédents y ont fait attention. Donc, il y a vraiment ce sens de qualité, de savoir-faire, d'authenticité.
Et de respect du vêtement.
Et de respect du vêtement. Et aussi, pourquoi on dit 20 ans ? C'est parce que c'est aussi, ça correspond à la période pré-fast fashion. La fast fashion, ça a commencé dans les années 2000. Donc,
d'ailleurs, je te coupe. Non, tu dis un truc très juste dans le dossier. Enfin, c'est toi qui l'as dit, ou Ariane. Ou... Dans vos dossiers, vous expliquez bien le dossier de presse. Donc, vous expliquez que la fast fashion nourrit les plateformes de seconde main.
Oui, en gros, on essaye de casser cette... Sans vouloir être polémique, ou parce que nous, notre travail, c'est de faire
des
jolis
tout.
Vêtements, et puis on vend de la mode, et on a ce côté très plaisir, mais il s'avère qu'on en a un peu marre quand on nous dit « Ah, c'est super, moi je suis hyper écolo, j'achète sur telle plateforme de seconde main ». Ça dépend en fait ce qu'on achète. Il s'avère aujourd'hui que les plateformes de seconde main super connues sont abreuvées de vêtements de fast fashion.
7,6 millions de produits Shine l'année dernière.
Ouais, tu vois. En fait, il s'avère qu'aujourd'hui, si vraiment les plateformes de seconde main étaient des alternatives à la fast fashion, on verrait la fast fashion reculer vu l'explosion des plateformes de seconde main. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. On voit qu'aujourd'hui, la fast fashion et l'ultra fast fashion n'ont jamais été aussi forts dans le portefeuille des ménages français, alors que les plateformes de seconde main explosent. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on étudie vraiment le marché, c'est que les plateformes de seconde main sont dépendantes de la fast fashion pour avoir du stock et que les plateformes, et que les marques de fast fashion sont super heureuses de ça parce que ça accélère le repeat et l'achat en gros compulsif de leurs clientes. Donc, il y a plein de nanas qui aujourd'hui achètent de la fast fashion encore plus qu'avant en se disant, c'est pas grave, de toute façon, je les revendrai sur telle plateforme. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, au lieu d'être un frein à l'achat compulsif, ces plateformes-là de seconde main, au contraire, accélèrent l'extension des marques de fast fashion. Et ça, c'est assez dangereux parce que c'est assez contre-intuitif. On a l'impression de faire un achat raisonné et responsable en fait en achetant de la seconde main sur Vinted, par exemple. Ça dépend quoi ? Si on achète des belles marques qui ont été faites en France ou en Europe, très bien. Si on achète que du Chine en fait de seconde main, on sait qu'on l'achète à quelqu'un qui l'a acheté elle-même en première main à un moment. Donc donc, il faut faire attention quand même et il faut savoir ce qu'on fait et il faut le faire en bonne connaissance de cause.
Mais en fait, c'est tu encourages les achats raisonnés et raisonnables.
Tout à fait. Nous, aujourd'hui, en gros, la mode, c'est pas superficiel. Il y a plein de personnes qui nous disent, à commencer par nos mecs, oh là là, encore une fringue, etc. Mais en fait, la mode, la raison pour laquelle c'est si fort et c'est une industrie aussi importante, c'est parce que c'est pas superficiel. Ça dit des choses. On s'habille pas juste pour se couvrir de la pluie et du vent et que pour pas avoir froid. On s'habille pour communiquer, on s'habille pour être bien dans ses pompes. Il y a une raison pour laquelle toutes les contre-cultures ont des uniformes, à commencer par les punks, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est un signe de ralliement. C'est une identification. C'est pour s'identifier ou au contraire pour s'émanciper, en fait, d'un groupe, etc. Donc, nous, la mode, on aime ça. On pense que c'est très important pour se définir. Les femmes et les hommes, aujourd'hui, en ont besoin, pas seulement pour s'habiller, mais aussi pour s'exprimer.
Et se démarquer aussi, peut-être.
Et se démarquer. Avoir un... Puis on a envie d'évoluer, on a envie de changer. C'est un plaisir, aujourd'hui, de s'habiller. Donc, on a envie d'avoir un placard qui évolue, qui s'embellit, qui s'enrichit, qui change en fonction de nos humeurs. Le problème, c'est qu'il faut pas que ça vienne... alourdir le bilan global carbone du secteur. Et pour nous, aujourd'hui, la seule solution, c'est vraiment le vintage. C'est-à-dire, c'est des vêtements, il y en a pléthore, il y en a en super belle qualité, il y a tous les styles. Il suffit juste d'aller les chercher aux bons endroits. Donc, c'est vraiment ça, imparfait, c'est sortir les belles pièces pour pouvoir les donner accessibles à tout le monde et éviter, du coup, d'acheter en première main.
En seconde main, tu veux dire? Ou en première main?
En première main, en seconde main.
Sur les plateformes de seconde main.
Sur de la fast fashion. Quoi.
Que penses-tu de l'expression être à la mode, alors?
J'ai pas de problème particulier avec ça. Je pense qu'être à la mode, c'est important. Ça permet de... Enfin, ça, encore une fois, c'est un moyen d'expression. C'est-à-dire, je suis pas... Moi-même, je suis des modes. Je suis pas forcément à la mode parce que je pense que je suis assez mature aujourd'hui pour savoir ce qui me plaît et savoir me définir. Mais il y a des modes qui me plaisent, il y a des modes que j'ai envie de suivre. Et je trouve ça vachement bien, en fait, parce que c'est un plaisir et c'est un mode d'expression.
Tu me disais en préparant l'émission que oui, la mode est un jeu, en fait.
Ouais, nous, on a un côté très... avec Ariane, et je pense que je suis imparfaite, on a un côté très ludique, en fait, par rapport à la fringue, par rapport à la mode, par rapport au look. On aime bien s'amuser.
Et toi ?
Mais moi, j'adore la mode. J'ai un placard qui déborde. J'ai pas du tout, en fait, j'ai pas du tout cette conception minimaliste de la mode. J'ai pas du tout envie de vivre avec un t-shirt et un jean. Ça m'ennuie, en fait. C'est pas mon plaisir. Moi,
le t-shirt blanc, non.
Si.
Mais ça t'amuse pas.
Avec plein d'autres choses. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que mon uniforme, ce soit exclusivement que des t-shirts blancs.
Qu'est-ce que tu penses de cette mode là qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment, du black, white? T'as vu le carnet de tendances de l'hiver prochain? C'est pas très, très fun.
C'est, en vrai, la mode est un éternel recommencement. C'est parce qu'on a eu des années très bling, colorées, que là, on revient à quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus sobre. Le contre-pied de ce truc-là, c'est que dans 5 ans, on va retourner sur des couleurs hyper bold. Tu vois, donc...
Ton dressing est-il 100% vintage?
À 99% vintage. Ça arrive que j'achète quand même du neuf, il ne faut pas se mentir, surtout des chaussures. Je fais toujours hyper attention, évidemment, de où c'est produit. J'achète que du Made in Europe et Made in France, principalement. Après, évidemment, en étant toute la journée sur Imparfaite, 99%, enfin, j'achète que du vintage. Mais j'ai vraiment un placard qui évolue. J'aime acheter, j'aime évoluer.
Dans quel sens il évolue ?
Bah, je vais avoir des trucs, tu vois, des pièces que je vais adorer et puis je vais m'enlacer, je vais les rendre en vintage, je vais les revendre et puis je vais acheter d'autres choses. Enfin, je suis pas du tout... Tu sais, t'as cette nouvelle aussi un peu tendance du minimalisme, en fait. C'est de dire, t'as pas besoin de fringues. Ouais, t'as pas besoin de fringues, t'as pas besoin de t'acheter des fringues. En vrai, avec un t-shirt et un jean, tu peux vivre. C'est superficiel. Non, c'est pas superficiel. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre avec un jean et un t-shirt. J'en mets et j'adore ça. Mais j'ai des pièces hyper fétiches, tu vois, dans mon placard qui me font trop plaisir de posséder, que je vais mettre 3 fois dans ma vie certainement, mais juste le fait de les avoir, ça me bande.
Quel genre de pièces, par exemple?
J'en ai plein. Franchement, je suis une tarée là-dessus. J'ai plein de fringues que j'achète. Même parfois, je les achète pas dans ma taille. Je sais que je vais jamais être capable de les mettre, mais juste le fait de les posséder, ça me fait super plaisir. Tu vois, par exemple, je sais que j'ai une paire de Saint Laurent que j'ai achetée dans une vente il y a hyper longtemps. Elles sont en 36. Je fais du 37,5.
Ah oui.
Je ne les ai jamais mises, mais dans mon placard, elles sont là. Elles me regardent depuis 15 ans. Et franchement, dès que j'ouvre mon placard, je suis trop heureuse de les voir, tu vois. L'année dernière, à la Vintage Fair, j'ai acheté un kimono en soie à une vendeuse. Mais une pièce, c'est une œuvre d'art, tu vois. Kimono en soie, rouge, avec des hérons brodés derrière. Franchement, sublimissime. Je me suis dit, quand je l'ai acheté, tu le mettras à la plage.
Oui, tout de suite, on s'imagine.
Ouais,
on imagine des situations idylliques.
Tu tu mettras à la plage et tout. Évidemment qu'à la plage, avec deux gosses, ton
le château de sable.
Le château de sable, ton parasol, ton kimono en soie, il passe pas du tout, tu vois. Donc vraiment, littéralement, je l'ai mis une fois dans ma vie, je pense. Mais je l'ai, c'est fétiche, tu vois. Enfin, c'est un gris-gris.
Ça te rend forte, peut-être?
Ça me rend heureuse. Ça me rend pas forte, ça me rend heureuse. Tu vois, quand je suis rentrée chez toi tout à l'heure, je t'ai dit, oh là là, c'est super beau chez toi, t'as plein de petites choses, tu vois, ça fait cabinet de curiosité. Bah, moi, mes fringues, c'est pareil, tu vois. Je vais avoir des choses, je vais les posséder, les regarder, c'est comme un beau tableau, où, tu vois, les regarder, ça m'apporte de la joie et de la satisfaction. Après, la plupart, évidemment, évidemment que mes vêtements, je les achète pour les porter, tu vois. Mon blouson, là, je suis venue avec un blouson en vinyle, je l'adore, c'est mon chouchou du moment, je le mets tout le temps et tout. Je sais que je pense que je vais la garder toute ma vie, mais il y a des pièges, je m'en lasse, je les change.
Quel est ton style, globalement?
C'est une bonne question. Je ne pense pas être extravagante, parce que ce n'est pas le cas. Je pense que je suis classique avec un twist. Je vais pas être, je ne suis pas du tout neutre. Ou... T'inquiète, il m'embête pas. Parce qu'il y a son petit chien, du coup, qui vient se poser sur moi, mais je n'ai pas de problème. Je suis pas du tout classique. J'aime avoir, tu vois, par exemple, j'ai mon uniforme,
oui.
J'ai un jean Levi's que je porte littéralement tous les jours. Mais je vais essayer toujours d'avoir un truc un peu coloré ou
t'as
un truc un peu
une petite veste autrichienne.
Ouais, j'ai un petit gilet autrichien, un t-shirt noir tout simple en dessous. Je pense que je suis classique avec un twist et j'adore la vibe 70s.
Oui.
Pardon. Non, j'allais dire, je porte beaucoup de pantalons flairs, j'aime le crochet, les paniers, le patchwork, tu vois, j'aime bien cette vibe un peu libre, bohème.
Tout à l'heure, tu nous disais que tu as eu du mal à trouver ton style. Tu l'as trouvé à quel âge, ce style?
Bah, c'est imparfait, je pense. Je pense que c'est imparfait qui m'a posé.
Donc en 2017.
Ouais, ça arrivait tard, non?
Il y a 6 ans.
Ouais, non, ça arrivait tard au final parce que. Jusque-là, j'avais pas trop le temps, tu vois, En fait, avec Ariane, on chinait pas mal quand on était en école, on était en prépa ensemble, donc on allait pas mal dans les boutiques parce qu'on avait un peu le temps. Et quand on a commencé, en fait, à avoir une vie active, bah, on n'avait plus le temps d'aller faire le tour des boutiques. Donc, je pense que je suis repassée à acheter du neuf, à pas avoir trop de style, tu vois, ou pas avoir un truc très défini. Là où j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi, c'est la trentaine aussi, je pense, tu vois. C'est la trentaine, t'as un côté où tu te connais, tu as déjà fait des erreurs, t'es un peu plus confiant, tu fais un peu moins gaffe aussi au regard des autres. Ton bien-être passe avant tout. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire... tu vois, par exemple, je te disais tout à l'heure, j'ai un rapport très fétiche aux vêtements. C'est à partir de là où j'ai commencé à acheter des pièces qui me faisaient vraiment plaisir, même si je savais pas forcément comment les associer. J'ai plein de trucs dans mon placard qui vont pas du tout ensemble, tu vois. Donc, bah, en fait, comme ça va pas ensemble, bah, j'empile et puis bah, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Et franchement, souvent, je trouve ça très beau et moi, ça me remplit de joie, tu vois.
Qu'est-ce que tu penses de l'art d'oser?
Ah, moi, j'adore. Surtout dans la fringue, tu vois, dans la mode. C'est quand même l'un des seuls domaines d'expression où il n'y a pas de limite, tu vois, il n'y a pas de règles, tu peux faire ce que tu veux, donc... Je pense qu'il faut, ouais, il faut oser. En fait, il faut se faire plaisir. À partir du moment où ça te fait plaisir, il faut y aller, quoi.
Quel vêtement que tu ne porteras jamais, par contre?
Je m'interdis rien. Après, les escarpins, je suis pas une fan. Parce que, je sais pas, mon pied doit pas être fait pour, tu vois. Je suis incapable de monter un escalier sans que mon escarpin, en gros, se barre. Donc, je suis pas à l'aise là-dedans. Donc, j'en porte jamais et j'en achète pas. Pour moi, une sandale, c'est d'avoir une bride, tu vois, pour tenir le pied. Sinon, ça marche pas. Après, il n'y a rien que je m'interdis parce que je pense que c'est trop sexy ou parce que ça l'est pas assez ou parce que ça peut ne pas être mon style à un moment et puis en fait, je vais avoir un changement d'humeur et en fait, je vais me dire pourquoi pas.
Quelle est la tenue qui te donne confiance en toi? Par exemple, j'ai vu que vous avez fait une levée de fonds dernièrement, ouais. En septembre de l'année dernière, ouais. C'est ça ouais. Quand tu te retrouves face à des financiers, tu dois présenter ton projet, ta boîte. Est-ce que tu t'habilles d'une certaine manière ou pas du tout?
Bah, encore une fois, franchement, je ne sais pas si j'ai un rapport bizarre avec les vêtements, mais moi, j'ai vraiment des vêtements gris-gris, tu vois. Donc, j'ai par exemple une veste en soie argentée, un peu chinoise avec un col Mao. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent, qui écoutent ton podcast et qui vont entendre ça, vont voir, tu vois,
la veste.
Visualiser la veste, que ça fait 15 ans que je l'ai, ça fait 15 ans que... Vraiment, je l'utilise dans toutes les occasions où j'ai besoin de me sentir à l'aise, bien dans mes baskets, ouais, confiante, tu vois, je la ressors à chaque fois, je la trouve bien, j'aime bien le style. Donc j'ai quelques vêtements comme ça, je sais, que je vais mettre et qui vont m'apporter du confort, enfin du réconfort.
Tu me parlais des années 70, est-ce que c'est pas une certaine nostalgie d'une époque passée ?
Non, parce que moi je la connais pas, tu vois, cette époque, donc je l'idéalise même pas particulièrement, je me dis pas c'est mieux avant, ou tu vois.
Ta maman t'a peut-être éduquée aussi, non ?
Oui, mais tu vois, j'ai pas le souvenir de ma mère. Ma mère est une femme coquette. Maintenant, c'est pas une fashionista. Elle est pas fan de vêtements. Elle m'a pas éduquée non plus dans l'amour absolu du vêtement. J'ai une grand-mère qui tricotait beaucoup et qui faisait tous les vêtements pour toutes ses filles. Elle a eu 7 filles. Ma mère a 6 sœurs. Donc, il y a quand même ce côté vêtements. On se passe les vêtements. Un côté artisanal de il faut faire la fringue, il faut faire attention aux détails et tout. Donc, ça, je l'ai. Mais tu vois, ma mère, si je l'imagine dans mes souvenirs d'enfant, c'était, je sais pas, elle est en maillot de bain avec un pantalon thaïlandais. Tu vois les pantalons thaïlandais que t'accroches devant et que t'accroches derrière, tu vois. Elle en avait un qu'elle adorait et c'était son uniforme de l'été, tu vois. Elle était comme ça tout le temps. Donc, j'ai pas souvenir, tu vois, qu'elle m'ait vraiment parlé de vêtements et tout. Je pense que la raison pour laquelle j'aime les années 70, c'est parce que je trouve que c'est super féminin déjà. Il y a un côté très libre, très nature, tu vois, le rapport à la terre, le côté un peu bohème, tu vois, que j'aime bien. Et je crois que j'aime bien le... Il y a de la chair, enfin, je sais pas comment dire, t'as un côté très sensoriel, en fait, qui est associé à ces époques-là, qui, moi, me plaisent pas mal.
Est-ce que t'as une héroïne en mode, une idole, un modèle, une icône ?
Ariane, elle va être contente.
Tu Ariane vois, contente.
Non, Ariane, c'est clair qu'elle a... Elle m'ins... Je pense pas être inspirée par des gens, par des icônes, tu vois. Je suis pas très influencée par des Kendall Jenner. Enfin, tu vois ce que je veux dire, des influenceuses, des grandes influenceuses en ce moment. Je suis très influencée par les gens que je vois autour de moi. Mes amis très proches m'influencent et m'inspirent beaucoup. J'ai une amie, par exemple, qui s'appelle Christina, qui est une Espagnole, qui s'achète beaucoup de vintage, mais pas que. Et elle, à chaque fois que je la vois, je me dis, oh là là, mais pff, la classe, quoi. Elle est mais nickel chrome. Déjà, je sais pas comment elle fait. Elle a toutes ses fringues qui sont repassées. Tu sais, ce truc de. Enfin, ça tombe nickel à chaque fois. Je me dis, mais c'est pas possible. Putain, mais comment tu fais pour avoir des fringues nickel?
Elle a peut-être un bon fer à repasser, tout
non,
simplement.
Non, mais puis je pense qu'elle y passe du temps, tu vois, où là où moi j'y passe pas de temps, ça me saoule. Mais elle est nickel. Elle a les ongles faits. Elle a le maquillage, genre impec. Et elle accorde hyper bien les vêtements. Je sais pas, je pense que c'est un truc assez espagnol aussi de pas avoir peur de mélanger les imprimés. Donc, elle a toujours des couleurs hyper flash avec des imprimés improbables ensemble. Ça rend toujours super bien. Et elle a toujours une belle pièce griffée. Elle a toujours un beau sac Fendi, tu vois, vintage, ou une belle blouse Saint Laurent. Enfin, elle a toujours, tu vois, elle est capable de mixer des trucs très, très courants avec des belles pièces griffées. Et ça fait toujours un look.
Je pense que ça, c'est la force de l'élégance.
Ça, vraiment, à chaque fois, je me dis waouh, vraiment, mais 100%. Tu sais, quand je la vois, parfois même, je me dis ok, faut que tu fasses gaffe. Tu vois
ah bon?
Tu sais, j'essaye d'être belle, tu vois, de penser un peu à mes fringues et tout. C'est pas que je me mets la pression, mais je me dis, putain, à chaque fois, je sais que je vais être bluffée parce que je vais la trouver sublime, je vais la trouver d'une élégance dingue. Donc, elle m'inspire vachement et je lui pique souvent des idées, tu vois. Typiquement, elle a toujours des très grosses boucles d'oreilles et à chaque fois, moi, j'en mets pas beaucoup.
Là j'ai des grosses créoles.
Ouais, là, j'ai des grosses créoles, mais franchement, c'est nouveau. Normalement, je mets rien. Et c'est elle qui m'inspire, tu vois, sur les bijoux. Après, donc elle m'inspire pas mal.
Est-ce que les filles de la rue t'inspirent ?
Vachement, beaucoup. Tu vois, typiquement, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans le métro, il y avait une nana qui avait un très grand impair oversize Burberry avec une casquette et un pull US. J'ai trouvé qu'elle avait une allure de dingue. Bah, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux le recréer, tu vois?
Est-ce que tu m'as... Donc, en fait, ton inspiration, tu la puises dans la vraie vie.
Ouais, les gens...
Et Instagram. Quel est ton rapport à Instagram?
Boulot. En fait, depuis qu'on se sert d'Instagram pour le travail, moi, j'y passe plus de temps, en fait, parce que c'est très associé à un parfait boulot, tu vois. Donc, en fait, j'y passe pas beaucoup de temps.
Donc, tu préfères mater les gens dans la rue.
Ce que j'adore, tu vois, c'est me poser à une... Enfin, je pense que c'est très parisien. Se poser à une terrasse de café, regarder les gens passer. Et moi, j'habite dans le 18e, tu vois, et je trouve que les gens, là où j'habite, sont dingues. Ils ont vachement de classe. Et puis, c'est très hétéroclite. Tu vas avoir T'as de tous les styles, tu vois, des gens qui mélangent des trucs et tout. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Il y a une nana au bureau aussi, Valentine, si tu entends le podcast, qui est notre responsable contenu, qui fait les looks chez Imparfaite. Elle aussi, elle m'inspire vachement. Elle a un œil, elle sait associer les trucs. Et en fait, ce que j'aime bien avec Valentine, c'est qu'elle est capable d'avoir des pièces très, très habillées, qu'elle va casser avec un truc très street, tu vois. Donc, ça fait des mélanges un peu rigolos. Et elle m'inspire pas mal aussi.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Hyper dur comme question. Je pense qu'il y a j'avais entendu quelqu'un te dire ça dans un podcast et j'avoue que j'adhère assez. Je pense que c'est pas forcément les vêtements, c'est plutôt une posture, une confiance, un ancrage, tu vois. Du coup on est toutes les deux en train de se relever
toutes les deux.
Non mais t'as ce côté, je pense que c'est plus une attitude que des vêtements.
Et en même temps, ton amie espagnole, tu la trouves méga élégante.
Mais elle est par ailleurs.
Parce qu'elle sait mixer.
Mais par ailleurs, elle a un port aussi, tu vois.
Elle a tout.
Elle a tout, non, mais elle est très agaçante.
C'est Christina ?
Ouais, elle est fantastique.
Bon, mais on salue Christina.
Ouais, je l'adore. Elle est géniale, mais c'est vrai qu'elle a ce côté. Je sais pas, il y a un côté aussi, je pense, c'est le respect de soi, je pense, tu vois. C'est le côté se tenir droit, être ancré, être bien dans ses baskets, être propre, tu vois. Plus que vraiment les vêtements. Je connais des gens qui sont très élégants, qui vont s'habiller avec un jean, un t-shirt, tu vois, et d'autres qui vont être griffés de la tête aux pieds. Je pense que c'est plus une attitude vraiment qu'un rapport aux vêtements.
Merci beaucoup, Camille. J'ai adoré cette conversation.
Ah, super. Bah, écoute, de même. Merci beaucoup à toi, Valérie.
Et puis rendez-vous sur Imparfaite Paris, je mettrai le lien d'Imparfaite en dessous du podcast.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.